Admettons ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, il est en effet tout juste midi et des poussières, c'est parti pour un moment ensemble en direct via les ondes de Radio Barthas, 107FM ou peut-être nous écoutez-vous de plus loin sur les internets, radiobarthas.net. Aujourd'hui dans cette émission, vous allez entendre parler de danse, de cinéma, mais surtout de musique, car Radio Barthas se relance dans un grand chantier, celui de sa programmation musicale. L'envie est là depuis longtemps, ai-je entendu dire de sources diverses et variées, de renouveler la musique qui passe à l'antenne, changer certaines choses, en réorganiser d'autres, enlever certains titres, en ajouter plein d'autres. C'est un gros projet, c'est pour ça que c'est pas évident de se lancer, mais voilà, ça y est, la décision a été prise, on s'y met. Et on a besoin de vous, chères auditrices et auditeurs. Et on s'est dit qu'on allait surfer sur les municipales pour lancer nous aussi un collectif citoyen, un collectif musical citoyen de la radio. Alors si vous aimez la musique, si vous aimez Radio Barthas, rejoignez-nous. Il y a plusieurs manières de participer, de contribuer. Vous pouvez déjà tout simplement nous dire quels morceaux vous ne voulez plus entendre ou au contraire, nous partager des morceaux que vous voulez qu'on ajoute à la playlist de Barthas. On a créé pour l'occasion une adresse email dédiée, c'est musique@radiobarthas.net, mais vous pouvez aussi nous envoyer un message sur le portable de la radio au 07 46 26 40 21, nous appeler ou passer nous voir. Et il y a même un formulaire sur notre site, sur la page d'accueil, rubrique « Contribuer à la radio » où vous pouvez proposer des musiques. Autre manière aussi de contribuer, vous pouvez rejoindre la commission musique de Radio Barthas et participer à écouter les nouveaux morceaux de musique qu'on recevra, écouter ceux qui sont déjà dans la base de la radio pour faire un tri. Et puis, comme pour les municipales, débattre, argumenter, défendre un style, un artiste. Et ensuite, une fois qu'on aura fait nos choix, qu'on aura voté. Bon allez, j'arrête de filer cette métaphore. Une fois que la playlist sera donc constituée, il faudra classer les morceaux par style et penser les créneaux horaires ou les diffuser. Bref, beaucoup de travail, mais ça va être passionnant. Et plus on est à contribuer, plus la playlist sera éclectique, originale, riche. Donc, venez participer.
Midi et des poussières.
Et pour nous mettre dans le bain, le grand bain de la... le grand bain de la programmation musicale, il se trouve que j'ai reçu la visite le week-end dernier de mon ami Michael Lio, qui a été, figurez-vous, responsable de la programmation musicale de Radio Nova pendant plusieurs années. Et je me suis dit que c'était l'occasion de lui demander de partager avec Radio Barthas son expérience, un peu les ficelles du métier de programmateur musical, comment on cherche, comment on planifie, comment on défend la musique qui est jouée à la radio. Alors on a discuté, on a dérivé autour de son travail, on perd un peu le fil parfois, mais j'ai trouvé ça intéressant et instructif d'échanger avec lui et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Alors sans plus attendre, le voici, Michael Lio, en exclusivité sur Radio Barthas. Salut Michael.
Salut Raphaël.
Bienvenue au studio de Radio Barthas.
Merci.
Et alors, donc tu étais programmateur musical chez Radio Nova, Michael.
Oui.
Pendant combien de temps ?
Pendant 4 ans et demi, entre 2017 et 2021.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'était ton rôle ? Et déjà, tu n'étais pas seul, hein, vous étiez trois, vous étiez une équipe.
Ouais, on était trois programmateurs musicaux. Et ben, le rôle d'un programmateur musical, c'est en gros de... Il y a plusieurs fonctions, mais en gros, sélectionner la musique qui va être jouée à l'antenne. Et au-delà de la sélectionner, c'est penser à la manière dont elle est jouée, c'est-à-dire à la régularité avec laquelle elle est jouée. Donc il y a la sélection, il y a aussi l'organisation, ce qu'on appelle donc la playlist, voilà. Donc c'est-à-dire un ensemble de morceaux dont on pense qu'ils représentent un peu l'esprit de la radio et qu'on a envie de défendre. Et puis aussi les communiquer, c'est-à-dire communiquer aussi avec les artistes, les managers, les labels qui sont en contact avec nous, c'est-à-dire recevoir des choses, leur donner des retours, et puis aussi communiquer avec le reste des équipes de la radio. sur les chansons qu'on a choisi de diffuser pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations et communiquer correctement. Voilà.
Alors, on va commencer par parler de la partie sélection. Toi, quand tu es arrivé à Nova, il y avait déjà une énorme base musicale préexistante à ton arrivée. Mmh. Donc ça, tu n'avais pas vocation à la changer ou si
Nova, ça existe depuis 81. Quand je suis arrivé donc en 2017, donc ça faisait déjà, il y a eu beaucoup de programmateurs qui sont passés avant moi. C'était pas mon but de changer radicalement la programmation. Je pense que c'est une des règles vraiment, c'est que dans la radio, c'est que tout va très lentement. Et il faut que ça se fasse de manière assez lente. Faut pas entendre trop les changements. Faut pas que ce soit radical. Si c'est radical, en fait, ou alors c'est vraiment
assumé
comme tel. Et donc dans ce cas-là, il y a une communication qui est faite autour de ça. Bon, y a des radios qui ont fait ça, le Move par exemple. Dans le cas de Nova, c'était pas du tout l'idée. Je pense que moi, j'avais envie, et puis avec mes camarades aussi, Christian et Guillaume, on avait envie de s'inscrire dans une continuité et de, on va dire, de rafraîchir, moderniser. Là où je pense qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites, on pouvait aller plus loin à certains endroits. Et voilà, en gros, réactualiser des choses.
Et c'est-à-dire aussi donner plus de place à la nouveauté par rapport aux titres anciens qui tournaient déjà depuis longtemps.
Oui, de toute façon, c'était déjà le cas. C'est-à-dire, les programmateurs, qu'on a remplacés, s'inscrivaient déjà dans l'idée qu'il fallait un mélange, en gros, de nouveautés et de choses, ce qu'on appellerait du back catalogue, en tout cas des pépites, des raretés, ce qu'on appellerait aussi des gold, donc des choses qui peuvent être familières et qui sont de d'autres époques. Le Nova dans lequel je suis arrivé était dans ce sorte de mélange fourre-tout de nouveautés et d'ancienneté, et c'est, je pense, encore le cas, et c'est une formule qui marche assez bien, en fait, il y a une formule assez classique en radio musicale. Ce qui va passer le plus, ce sont les morceaux qui sont, on va dire, qu'on a envie de défendre le plus, c'est l'actualité, en fait. Et par ailleurs, il y a des morceaux qui sont là pour être des repères, en fait, dans l'écoute pour les auditeurs, donc des morceaux familiers, donc on appelle ça des gold en radio. Et chez Nova, il y avait aussi ce truc de la pépite, de la rareté, ce qu'on appelle les rares grooves à Nova, et qui sont des morceaux qui sont ni des tubes que tout le monde connaît, ni des nouveautés, mais des choses un peu qui peuvent être des pépites un peu oubliées ou connues par un certain nombre, mais pas par tout le monde, et dont on pense qu'elles méritent d'être découvertes. Ouais, c'est ce qui est génial aussi avec une radio comme celle-là, c'est qu'en fait, on n'a pas de limite en fait dans les époques, et on part du principe que tout peut être découvert aujourd'hui. L'idée, c'était de mélanger des choses. Alors, en ayant une sorte de conscience de ce qui pouvait être une ligne directrice, même si elle est assez large pour Nova, elle est toujours différente selon les gens, d'ailleurs. Tout le monde a pris une idée différente de ce que c'est que la ligne.
Mais on pourrait quand même résumer en disant que c'est la sono mondiale.
Moi, je dirais pas. Je pense que ça a été le cas à une époque, oui. Ce terme-là, il revient souvent, et je pense qu'il est toujours présent parmi, je pense, les appellations qu'on pourrait donner. On a parlé de grand mix pendant longtemps. En gros, il y avait quand même l'idée de l'éclectisme. Et pour moi, c'était aussi beaucoup l'élégance, enfin une forme d'élégance. Enfin, c'est comme ça que j'essayais d'imaginer les choses. Quelque chose qui était... où on réfléchissait à ce que l'ensemble soit, on va dire, harmonieux. Mais quand même avec une notion de groove aussi. Donc plutôt que de parler spécifiquement en sono mondial, je pense qu'il y avait un intérêt pour des différents horizons, des horizons très larges, c'est sûr. Il y a aussi de la chanson française, il y a du rap, il y a du funk, je sais pas moi, de l'électronique, enfin tous ces trucs-là se mélangent. Mais pour moi, c'était surtout le côté curieux, élégant et.
Mais élégant, qu'est-ce que tu mets derrière cet adjectif?
Ça c'est un peu subjectif, mais pour moi c'était une sorte de recherche de l'arrangement, du son, du mix. c'est en fait, si on entend en écoutant Nova, je pense que l'idée c'était de se dire ah oui, c'était cohérent. Et après, ouais, je pense que exigeant en fait, exigeant dans le dans la recherche, ouais, donc musicalement,
dans les compositions,
dans les compos, dans les arrangements, dans quelque chose qui sonnait soit nouveau, soit intrigant, un tout petit peu le pas de côté en fait, pour le dire un peu classiquement, mais. Cette idée de pas de côté, tout en étant conscient qu'on est une radio dont la visée est aussi d'avoir une écoute assez large quand même. C'est-à-dire que c'est pas non plus le but de faire un truc complètement barjo. Je pense que ça a été le cas à une époque. Il y a des moments dans la journée où ça peut être le cas. Et c'est des moments un peu privilégiés. Mais disons que sur l'ensemble, il fallait penser à l'idée que on voulait qu'il y ait une écoute, qu'on puisse réécouter des morceaux qui donnent envie d'être écoutés. On fidélise en fait des auditeurs sur des morceaux, sur des artistes, avec l'idée d'accompagner des artistes aussi qu'on défend.
Ça, c'est pour le cas des nouveautés.
Pas
spécialement. C'est... Ou alors après des nouveautés qui deviennent plus des nouveautés.
Voilà, il y a aussi ça. Il y a des anciennes nouveautés. Il y a des choses qui ont été dans playlist, ce qu'on appelait la playlist A. Donc la playlist nouveauté, celle qui est la plus jouée. Et les morceaux qui ont vieilli, mais qu'on considère encore faisant partie de l'ADN et qu'on a envie de réécouter plus tard.
Tu peux nous donner un exemple, par exemple, d'un morceau comme ça ?
Moi, il y avait un morceau que j'aimais bien, qu'on a rentré à une époque qui était un morceau de Varnish La Piscine, qui s'appelle Le Regard qui tue, LRQT. C'est un artiste, pour expliquer, c'est un musicien, rappeur, producteur, un peu une sorte de homme de la Renaissance, dans le sens où il fait tout, il sait tout faire, il fait des films aussi, voilà, qui vient de Genève, de la scène genevoise, et qui avait fait une sorte d'EP complètement barré, qui était une sorte de comédie musicale avec l'idée d'un comme un film noir, avec différents personnages, dont Bonnie Banane, qui est en featuring sur ce morceau, Le Regard qui tue, à une époque où Bonnie Banane n'était pas encore très connue. Et donc ça faisait un peu d'une pierre deux coups, en fait. On défendait et Bonnie et Varnish La Piscine dans un seul et même morceau qui avait l'avantage d'être, de pouvoir... En fait, ce qui était cool en écoutant Varnish ce morceau-là, c'est que c'était à la fois extrêmement moderne dans la proposition et en même temps très familier déjà. C'est-à-dire que c'était déjà comme quelqu'un qui s'inscrivait dans un ADN très proche de celui qu'on pouvait connaître à Nova, en l'occurrence les Neptunes, Pharrell Williams, des choses un peu rap, un peu funk, un peu électronique. Donc il y avait déjà ce mélange-là. En fait, ce qu'on aimait bien trouver, en tout cas à mon époque, sur Nova, ce qui nous plaisait vraiment, c'était les morceaux qui étaient métissés dans le sens où ils allaient chercher différentes influences et pas juste un seul trait, quoi.
On écoute Varnish La Piscine sur Radio Bartas. Yeah, everything big, but you better than it up. What's the move? You can groove, that brand new. Now it's time for your boy JBN. Grab the seats and get your popcorns, cuz.
Donc déballe tous tes crimes ici. J'attends juste comme un traître. Confesse que je l'enferme. Que je rigole comme un lâcheté. Regarde les par le fiat.
Aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Je croyais que c'était. Aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Je croyais que c'était. Aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un? Je croyais que c'était. Aurais-je dû faire profil bas à chaque fois que je croisais quelqu'un?
Tu croyais que c'était moi?
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
C'était Le regard qui tue de Vernish La Piscine, donc le choix de Michael Lio, ancien programmateur musical de Radio Nova, qui est de passage à Radio Bartas pour nous parler un peu de son, de sa mission qu'il a effectuée pendant 4 ans et demi chez Nova, à l'heure où nous, à Radio Bartas, on essaie de remettre en place un peu tout un mouvement, un engouement pour faire bouger un peu aussi la playlist de la radio. Et d'ailleurs, donc, il en faut pour tous les goûts. C'est pas parce que t'es programmateur musical d'une radio que tu dois choisir que des morceaux qui te plaisent à toi. Comment est-ce que ça se passe quand tu entends quelque chose ou tu sens que toi, c'est pas exactement ton truc, mais tu sais que voilà, y a des auditeurs à qui ça va plaire? Ça doit être assez difficile, j'imagine, de faire la part des choses, de pas exclure parce que toi, t'aimes pas. Enfin, comment tu gères ça?
Alors déjà, on était trois, hein, et non seulement on était trois dans la programmation, mais c'était aussi quand même de plus en plus des choix collectifs. Il y a eu aussi d'autres personnes qui étaient impliquées dans le processus au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce qui est assez compréhensible, puisque quand on fait des choix éditoriaux, musicaux, dans une radio qui est prioritairement musicale, il faut aussi que ça soit assumé par tout le monde derrière. Donc en fait, je trouve ça effectivement bien de ne pas faire juste des choix dans une petite bulle et ensuite les imposer aux autres. Donc il y avait quand même l'idée qu'il fallait être conscient à la fois de ce que pouvait aimer, apprécier un auditorat. Déjà, il fallait comprendre qui nous écoute. Donc, il y avait des études qui avaient été menées là-dessus aussi. Mais c'est-à-dire qu'on n'avait pas, on peut pas être certain des réactions des auditeurs, en fait, sur un morceau. C'est pas comme sur des plateformes où on peut avoir directement le nombre d'écoutes. Et donc, il y a quand même une part de subjectivité et une part de ressenti un peu personnel. Et en fait, aussi de communication avec le reste des équipes de la radio. Voilà.
Vous faisiez régulièrement des réunions musique où il y avait les journalistes, le directeur de la radio qui était là, les programmateurs, et puis vous discutiez des choix qui étaient faits.
Ouais, selon les périodes, il y a eu ça, effectivement. Voilà, et parfois, c'est intéressant parce que ça mène parfois à des clashs, à des gens qui ne sont pas d'accord. Et en fait, après, il y a des questions. Bon, il y a des personnes qui finissent par avoir le dernier mot sur tel ou tel truc. Mais...
Je me souviens d'une anecdote. Bon, moi, j'ai travaillé aussi un peu à Nova. Je n'assistais pas aux réunions musique, mais je sais qu'à un moment, le nouveau directeur, dont on taira le nom, demandait pourquoi est-ce que Nova ne diffusait pas les morceaux de Angèle, par exemple.
Ouais, c'est compliqué. En fait, finalement, c'est une bonne question. Hein. C'est
qui a fait des super morceaux que moi j'adore d'ailleurs, Angèle. C'est pas...
Mais oui, mais alors justement, c'est la question. On peut trouver que, pour prendre l'exemple de Angèle, on peut trouver que Angèle fait des bonnes choses. On peut trouver que ça peut être important de la défendre à un tel endroit. Il y a des manières détournées de passer par là. On peut considérer. Je pense qu'Angèle, au tout début, elle a fait une session acoustique à Nova. Bon, il y a eu des biais par lesquels Nova s'y est intéressée, dans l'idée où Nova pouvait accompagner la nouveauté, une artiste qui a clairement du talent.
Mais ça, c'était à ses débuts, parce qu'en l'occurrence, quand le directeur voulait passer du Angèle, elle était déjà extrêmement diffusée aussi partout ailleurs. Donc j'imagine que ça questionne aussi le besoin presque de la diffuser sur Nova, sachant qu'elle est déjà extrêmement diffusée partout.
Oui, après, c'est intéressant parce que Nova n'était pas nécessairement une radio qui devait ne jouer que des choses moins connues. Donc si Angèle, entre guillemets, c'était possible qu'elle ait sa place. Bon, là, en l'occurrence,
elle ne l'avait pas eue,
finalement. En fait, non, mais c'est aussi ça, c'était des choix vraiment esthétiques de direction artistique. C'est-à-dire, il se trouve que cet artiste-là, en particulier, à l'époque, en tout cas, on s'était un peu prononcé contre le fait de la passer en playlist. Mais il y avait d'autres endroits sur lesquels c'était intéressant de la voir, dans des émissions, sur du live, etc. Donc c'est le cas, Angèle c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et en fait, cette question-là, finalement, c'est important de se la poser malgré tout. Hein, si un directeur vient nous dire pourquoi on ne vous passait pas des choses populaires que les gens peuvent écouter, eh ben, c'est vrai qu'il faut avoir une réponse. Il faut se dire pourquoi on ne la passe pas. Parfois il y a des bonnes raisons, parfois il n'y en a pas. Parfois on peut se dire, il n'y a pas de bonne raison de ne pas la passer si la musique est bien. Si la musique est bien, c'est pas parce que la personne est très connue déjà qu'on va s'empêcher de la passer. L'important, c'est que les auditeurs, il faut toujours penser que les auditeurs doivent s'y retrouver. Et en fait, c'est eux qui doivent aimer ce qu'on passe, quoi.
Et pour terminer, est-ce que tu pourrais nous citer le nom d'un morceau qui t'a vraiment marqué, qui serait un peu représentatif pour toi de ton travail en tant que programmateur musical à Nova?
C'est une question évidemment très difficile, mais je pense que je suis assez content d'avoir participé à faire peut-être un peu connaître, même si c'est très difficile enfin, un média seul ne peut pas faire connaître un artiste, évidemment, ou une artiste, mais en tout cas contribuer à faire connaître certains artistes pour lesquels il n'y avait pas forcément de place ailleurs, puisque c'est qui proposait une musique que je trouve hyper passionnante, intéressante et nouvelle, mais qui sortent un tout petit peu des clous. Je pense notamment à une artiste qui s'appelle Pongo, qui est aujourd'hui assez connue, je dirais, mais qui, à l'époque, sortait du Buraca Sound Sistema, donc un collectif lisboète qui avait quand même bien marché à la fin des années 2000. Elle avait été, c'est une chanteuse qui est angolaise à la base, mais sur la scène de Lisbonne, et qui est arrivée donc 10 ans après cette première incursion dans la scène avec le Buraca Sound Sistema. Je dis 10 ans à peu près, hein, je suis à la louche. Elle est arrivée avec un premier EP qui était donc du kuduro. Kuduro, c'est donc un genre, c'est un rythme angolais. Mélangé à des choses plus pop et justement des saveurs, des choses justement très métissées, à la fois pop et rythmées, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment placer sur une carte. Et ça, je trouvais ça fascinant, et je trouvais que le morceau, c'est devenu une sorte d'hymne un peu pour moi, je trouve, de cette époque-là dans laquelle j'étais.
C'est quel morceau?
Donc un morceau qui s'appelle Kudzola,
Kudzola
de Pongo.
Oui. Voilà. Non, mais tu voulais continuer d'en parler. On va l'écouter juste après, mais si t'as encore.
Ouais, en fait, il est sur une des Nova Tunes, donc en tant que programmateur.
Donc les Nova Tunes, c'était les célèbres compiles de Nova.
Oui,
en a une dans le studio de Radio Bartas.
Voilà,
d'ailleurs.
Je la vois. Ouais. Oui, en tant que programmateur aussi, on s'occupait aussi de sélectionner les compiles des Nova Tunes. Et en fait, quand vous écoutez, si vous avez encore des lecteurs de CD, ou même parce que vous pouvez trouver aussi sur les plateformes. Les Nova Tunes, c'est en fait c'est des disques qui sont sélectionnés par les programmateurs et qui sont un peu des sortes de meilleurs, le best-of de l'année ou des 6 mois qui viennent de s'écouler. C'est une bonne sorte de vignette, une sorte de bonne, un bon, comment ça, un cliché. Ouais, non, j'aurais dit un cliché d'une époque. Enfin voilà,
un instantané.
Merci, c'est un meilleur mot de l'époque, une certaine époque de la programmation de Nova. Donc c'est assez cool de s'y replonger aussi. Et Kudzola est sur une de ces compiles là, et je trouve que ça représentait bien un peu ce moment de ce que tu as appelé sono mondial, donc ce truc de pop global, enfin je sais pas comment l'appeler, mais qui mélange vraiment des influences de partout et qui se retrouve avec quelque chose d'assez unique et qui est audacieux, voilà, et qui est métissé, audacieux et pop et fun et super à réécouter, voilà.
Et c'est 2019, 2020, c'est quelle année?
Tu me mets une colle, je crois que c'était 2019, ouais.
Eh ben, on se quitte alors avec ce morceau qu'on écoute tout de suite. Merci beaucoup, Mickaël.
Merci à toi.
D'être venu nous raconter tout ça. Donc, Kudzola de Pongo sur Radio Bartas.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A crioula que guia te ama, te beija, faz viajar. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Cama,
amendo com sole,
pra me doer. Sou a dama da zona rabuda que manda não se quebrar. A crioula que cuida te ama, te beija pra viajar.
C'était Kuzola de Pongo et c'était le choix de Mickaël Lio, ancien programmateur musical de Radio Nova, que je remercie encore d'avoir partagé son expérience au micro de Radio Bartas.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Vous êtes bien dans Midi et des Poussières. On continue cette émission très musicale aujourd'hui en parlant d'un spectacle qui est autant un concert qu'un spectacle de danse. C'est Let's Folk de la chorégraphe Marion Musac que vous pourrez découvrir ce dimanche à 17h sur la scène de la Jeunette Verte de Florac. Et j'ai discuté avec Marion au téléphone hier. Elle nous présente sa proposition.
Alors, le spectacle Let's Folk, c'est un projet qui est assez particulier puisqu'il est à la frontière entre un spectacle de danse, contemporaine qui s'inspire des danses folkloriques et un concert. Et la particularité de ce spectacle est que pendant les 15 dernières minutes, une partie des publics est invitée à danser avec les quatre danseurs qui sont au plateau et les deux musiciens.
Donc le public est invité à monter sur scène, mais ce n'est pas n'importe quel spectateur, c'est ça, il faut quand même avoir un petit peu participé en amont.
Absolument, il y a un atelier qui est prévu la veille du spectacle, dans lequel on accueille une vingtaine de participants et participantes, à partir de 8 ans jusqu'à 70 ans ou plus. Il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas de conditions particulières pour participer. Quelques rudiments de mouvements sont appris en quelques heures et le lendemain, voilà, ces personnes-là sont invitées à rejoindre la fin du spectacle et nous avons une danse tous ensemble collective qui se déroule pour conclure la pièce Let's Folk.
Alors la chorégraphie que vous avez créée pour ce spectacle, elle est inspirée des danses folkloriques. Est-ce qu'il y a certaines danses plus que d'autres qui vous ont inspiré ou c'est un mélange de plein de choses, de France d'ailleurs?
C'est vraiment un mélange. Disons que quand on parle de danse folklorique, en fait, j'y associe aussi le mot danse traditionnelle, danse populaire. En fait, tous ces termes-là m'intéressent à partir du moment où ce sont des danses sociales. Donc, que ce soit dans un bal, dans une boîte de nuit, en groupe, en couple, dans ce qu'on appelle un fest-noz, par exemple, en Bretagne. En fait, toutes ces sources sont inspirantes ou ont été inspirantes pour créer la partition de ce spectacle. On s'est aussi inspiré de ce que nous, en tant que danseurs, nous avions traversé dans notre enfance, dans nos pays d'origine, pour essayer d'avoir un vocabulaire relativement diversifié et construire notre chorégraphie.
Et alors, dans les danses plus traditionnelles, vous citiez les fest-noz, mais voilà, on peut en citer d'autres, les bourrées, les mazurkas, les polkas, toutes ces danses traditionnelles qu'on connaît bien aussi ici en Occitanie ou dans le Massif central. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces danses-là?
Je pense que c'est le sens du partage, c'est le sens de l'invitation à danser, c'est le fait d'associer la danse à une pratique sociale et collective. Je pense que dans la plupart des projets qui ont été menés jusqu'alors, il y a toujours cette idée de créer des micro-tribus ou des petites sociétés qui, comme ça, arrivent à vibrer ensemble et avoir une pratique collective qui parfois bouleverse un petit peu le quotidien.
Vous dites tribu, d'ailleurs le terme folk en anglais, on peut le rappeler, ça veut tout simplement dire le peuple. Et d'ailleurs, dans le titre de votre spectacle Let's Folk, qu'est-ce que vous entendez par là?
Si on écoute bien le mot let's aussi, s'il y a quelque chose de très engageant en fait, hein, c'est s'engager pleinement dans le corps, pleinement dans l'espace, pleinement dans la musique.
Et donc c'est Emily Fife qui signe la scénographie de ce spectacle?
Tout à fait, c'est Emily Fife qui est plasticienne, scénographe, qui signe la scénographie de ce spectacle avec une sorte un aplat, on va dire, un dessin au sol fait au blanc de Meudon. Je n'en dirai pas plus parce que c'est un peu magique ce qui se passe au fur et à mesure du spectacle, mais c'est extrêmement beau en fait à voir et à voir évoluer au fur et à mesure de la pièce.
Et alors les danseurs, voilà, vous l'avez dit, ce spectacle, c'est à la fois de la danse et à la fois un concert. Donc les danseurs, ils sont accompagnés au plateau par un groupe de musique qui s'appelle Jello.
Jello, c'est ça.
Jello, ouais. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Oui, tout à fait. Alors le groupe Jello est composé d'un musicien et une musicienne, donc Vincent Barraud à la guitare, qui chante également. Et Johanna Luce, qui est chanteuse, musicienne, joue également de la percussion dans ce duo. Pour le projet Let's Folk, en fait, c'était notre toute première collaboration. Voilà, c'était notre première rencontre et ça a été relativement fort puisque nous continuons à travailler ensemble. Et Let's Folk est une pièce qui a été créée en 2018. Je suis super heureuse en fait, d'avoir rencontré ces deux musiciens, musiciennes. Certaines musiques en fait sont issues de leur répertoire et d'autres musiques ont été composées spécialement en fait pour la pièce. Ce qu'on peut dire, c'est que la proposition musicale fonctionne comme ce qu'on appelle un set musical, c'est-à-dire comme un concert. Donc c'est une série de chansons en fait qui s'enchaînent tout au long des 50 minutes de représentation. It's a big explosion in my heart. How you really tore me apart. Thank you.
so new, I felt I could fall
in love with your little boy.
She's your pure shelter now. How lucky they made me here by vow.
Pledge of honor would make you smile. It's a big explosion in my heart. How you really tore me up for a no.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, on écoutait à l'instant le titre April de J-Lo, le groupe qui accompagnera les danseurs du spectacle Let's Folk de Marion Musac, qu'on remercie d'être venu, d'avoir pris le temps de nous en parler sur Radio Bartas. Et donc je rappelle, le spectacle sera joué ce dimanche à 17h à la Jeunette Verte à Florac. Et pour celles et ceux qui souhaitent faire partie des spectateurs qui pourront monter sur scène et rejoindre les danseurs, l'atelier préparatoire aura lieu la veille, donc samedi à 17h. Voilà, pour s'inscrire et pour réserver, eh bien, tout est sur le site de la Jeunette Verte.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour des sorties cinéma et c'est le jour de la chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco.
L'association de cinéma itinérant en Cévennes sur Radio Bartas.
Et avec nous aujourd'hui pour la rubrique Parlons Ciné avec Cinéco, Mireille. Bonjour Mireille.
Bonjour, bonjour à tous et toutes.
Alors Mireille, vous êtes la présidente de Cinéco.
Alors, ça fait déjà quelques années et je l'ai à l'origine, si vous voulez, c'était, j'avais proposé du cinéma dans mon village, que j'habite via Las, en Lozère. Et puis j'ai connu Cinéco comme ça parce que j'ai demandé à ce que Cinéco vienne dans le village. Après, j'ai changé, je suis retournée vers Cinéco comme bénévole, tout simplement. Et puis ensuite, il y a eu l'opportunité d'être présidente parce que la présidente démissionnait. Et je me suis présentée et je suis élue depuis quelques années, voilà, avec plaisir.
Et donc, vous êtes en charge de quoi exactement?
Alors, je suis en charge de la représentation, puisque c'est ça le rôle d'un président, d'une présidente. Je suis aussi en charge de la nuit des courts-métrages, on va en parler tout à l'heure, parce que Vincent, le directeur, m'a demandé il y a quelques années de m'occuper de cette nuit du court-métrage, de la réactualiser, de la renouveler. Et on a une très jolie équipe à organiser cette nuit, ces plein air de court-métrage l'été.
Voilà, donc les nuits du court-métrage, c'est des événements donc autour du court-métrage que vous organisez l'été, mais il y a aussi une version hivernale à cet événement et vous vouliez nous en parler aujourd'hui.
Voilà, alors donc l'été, c'est du plein air dans des lieux très atypiques. Je prends un exemple, la gare de Concoule, parce que c'est mon coup de cœur aussi un petit peu, mais aussi le château de Roquedolle à côté de Mervès. Mais l'hiver, des villages qui n'ont pas fait cette nuit du court-métrage l'été nous demandent de la refaire en version donc hivernale et en soirée. Sainte-Troie, Vallée française, vous en parlerez, Villefort le 25. Qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est quatre sessions de courts-métrages qui sont pris dans des festivals internationaux comme Clermont-Ferrand, comme Cinémed, des coups de cœur qu'on nous envoie et que l'on visionne. On est plusieurs à visionner beaucoup, beaucoup de courts-métrages. On fait une sélection et à partir de cette sélection, on programme ces sessions qui vont bon, jusqu'à la nuit l'été et jusqu'à en fin de soirée avec des boissons, des petits encas pour ceux qui veulent venir. Voilà.
Et la particularité, c'est que la sélection n'est pas annoncée à l'avance, c'est la surprise.
Non, on donne la surprise, on laisse la surprise. Je vais vous donner juste une seule petite indication, peut-être les pays. On fait venir par exemple des films de Corée, du Sénégal, de Belgique, il y en a un très fameux, sur l'histoire d'une poule par exemple, qui a du mal à rester chez son propriétaire. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on découvre. On découvre de la fiction, on découvre un petit peu de documentaire, on découvre des problématiques joyeuses, moins joyeuses, parce que c'est une vision de la société, aussi des visions de la société, le court-métrage. Et vous aurez tout l'agenda dans cineco.org.
Et je le remettrai, les informations sur la page de l'émission. Eh bien, merci pour ça. Alors maintenant, on passe au film de la semaine dont vous êtes venu nous parler. Donc, c'est le film Dossier 137 de Dominique Moll qui est programmé chez Cinéco à partir d'aujourd'hui.
C'est mon coup de cœur. C'est pour ça que je vous ai proposé d'en parler. Pourquoi c'est mon coup de cœur ? Parce que Dominique Moll, ce n'est pas un inconnu. C'est quelqu'un qui a tourné sur le Causse, mais Jean, avec Seules les bêtes. Il est d'ailleurs venu à Cinéco. Il a fait des soirées de présentation de son film. Et il connaît bien le milieu policier et judiciaire. Et là, avec Dossier 137, il enquête sur la police des polices qu'on appelle l'IGPN. Hein, voilà. Et enquêter sur la police des polices, c'est pas innocent, puisque dans son film, il va parler de quelqu'un qui a été blessé par une... Alors comment ça s'appelle
Un tir de LBD ?
Oui, LBD, ça s'appelle désencerclement. Voilà.
Grenade de désencerclement.
Voilà, excusez-moi, je ne connais pas les termes précis. Il a été mutilé. Et Dominique Moll s'intéresse à ça. Alors, pour travailler sur ce film, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il s'est complètement immergé dans la police des polices. Il a demandé à la directrice, d'ailleurs, de l'IGPN, d'aller travailler sur place. Donc, il est allé travailler sur place. Il a pu consulter les dossiers. Il a pu aussi interviewer les enquêteurs et les enquêtrices. C'est important parce que, justement, le film parle d'une enquêtrice et c'est la vision d'une femme. Et voilà. Donc, il a fait ce travail vraiment d'étude des dossiers, de minutie. C'est un terme que je vais utiliser. C'est la minutie de Dominique Moll pour ce film.
Et vous savez combien de temps il a passé en immersion au sein de l'IGPN ?
Certainement plusieurs mois. Et en plus, il s'est associé à un co-scénariste qui s'appelle Gilles Marchand, qui lui a travaillé sur la partie plus loi, plus technique, plus juridique. Non, il a passé beaucoup de temps. Il a même été dans des manifestations du côté des policiers. Il a étudié énormément de visios, de vidéos, de caméras de surveillance, etc. pour comprendre vraiment de l'intérieur le travail de l'IGPN. Et Léa Drucker, qui est l'actrice principale du film, qui est absolument extraordinaire, franchement, qu'on connaît, mais qui là est un grand, grand rôle. Elle a fait la même chose. Elle est allée aussi discuter avec des enquêtrices. Et alors, j'ai gardé une phrase que je trouve intéressante, parce qu'elle a demandé aux enquêtrices, et vous le verrez dans le film, je ne vous raconte pas le film, mais vous verrez, vous regarderez le film sur le regard de Léa Drucker, comment elle regarde d'un côté un policier, de l'autre côté la caméra, ou les vidéos. C'est vraiment ce travail sur le regard. Et quand elle a vu les inspectrices lui ont dit « Nous, surtout, c'est de ne rien montrer, on garde tout à l'intérieur. » C'est-à-dire que quand on est visiblement, je ne suis pas inspectrice, mais je me suis mis un peu dedans, moi j'aime bien aussi comprendre de l'intérieur, ça veut dire qu'il faut qu'elle ne montre rien, ni empathie, ni sympathie, ni peut-être négative, elle ne doit rien montrer. Elle doit juste faire parler les gens. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant.
Et alors, donc, ça aborde la thématique des violences policières. C'est des sujets qui sont très graves et qui sont souvent bouleversants. Il y a beaucoup de mobilisation aussi citoyenne pour essayer de lutter contre les violences policières. Quelles sont les intentions de Dominique Moll avec ce film? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il prend parti, peut-être politiquement pour ou contre, ou au contraire,
justement,
il reste très objectif?
C'est plus fort que ça, je trouve. C'est que justement... Alors, il le dit, il veut mettre la lumière sur les victimes des violences policières. Ça, ce n'est pas contestable. Par contre, ce n'est jamais manichéen. C'est-à-dire qu'il a fait un film quand même équilibré. Même s'il veut la montrer, elle est réelle, la violence policière, il ne la généralise pas à tout le monde. Tous les flics ne sont pas des voyous, tous les manifestants ne sont pas des anges, etc. Ce n'est pas ça. C'est qu'il veut montrer quand même la complexité du travail déjà de l'IGPN, parce qu'il y a une vraie complexité de ce travail. Il veut aussi montrer que l'articulation entre la police, la justice et la démocratie, ben, elle est très compliquée, aussi très complexe, mais qu'il faut être alerté. C'est-à-dire qu'il veut, en fin de compte, nous mettre en situation de citoyen. Il nous alerte. Mais il n'est pas manichéen. C'est ça que j'aime chez lui. Voilà, je trouve ça intéressant.
Et donc, c'est aussi une première, ce film. Il n'y avait pas eu de film fait sur l'IGPN avant.
Alors, j'ai fait une petite recherche sur Internet et j'ai tapé « film IGPN ». Et j'en ai trouvé un, mais qui est très vieux, de Georges Lautner, qui s'appelle « Flic ou voyou », qui était connu à l'époque, et qui parlait d'un inspecteur, justement d'un enquêteur de l'IGPN. Mais sinon, il n'y en a pas. Il y a quelques documentaires, mais vraiment très rares. Donc, c'est un film important, je trouve, dans la filmographie de ces questions policières que Dominique Moll a fait. Voilà.
Film qui fera date.
Je pense, j'espère en tout cas.
Eh ben, merci beaucoup, Mireille, pour ces éclairages sur le film. Ça donne très envie d'aller
Avec
le voir.
Avec plaisir. Et allez le voir, vraiment, régalez-vous, parce que c'est un film sérieux, mais c'est un film aussi important, je trouve, pour comprendre ces articulations démocratiques. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, vous pourrez découvrir le film Dossier 137 dès ce soir à 20h30 à Florac, et puis le samedi 17 janvier à 16h30 à Bar des Cévennes, dimanche 18 janvier à 20h30 à Vébron, ou encore jeudi 22 janvier à 20h30 à Saint-Enimy. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve demain pour un prochain numéro de Midi et des Poussières. Et n'oubliez pas, le collectif musical citoyen de la radio vous attend pour penser ensemble le renouvellement de la playlist de Bartas. Je rappelle l'adresse pour nous contacter à ce sujet, nous envoyer des propositions de musique, etc. etc. C'est musique@radiobartas.net. Et dernière info importante à vous partager avant de se quitter, l'équipe d'Open Bartas est de retour ce soir pour une nouvelle émission en direct. Ils tenteront de répondre à la question plurimillénaire au fondement même de toute pensée philosophique, l'œuf ou la poule. Vous voulez la réponse? Eh bien, rendez-vous ce soir à 19h sur Radio Bartas, 107 FM, évidemment.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.